Ici, il est 13h. Le journal Audrazo. Bonjour Aude.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
À la une.
Les bouchons qui se profilent ce week-end. Bison futé voie rouge aujourd'hui et demain sur une bonne partie de la France. On sera sur la route avec vous qui grimaçait au moment de faire le plein et avec 26 autoroutes qui essayent de fluidifier le trafic. Des malades inquiets, le gouvernement abandonne sa réforme des franchises médicales, mais une autre réforme est sur les rails et elle frappera forcément au porte-monnaie. Dans ce journal, on entendra le maire de Chartres qui demande à Patrick Bruel d'annuler son concert de début octobre. On sera aussi au port Jean Gironde où les militaires viennent prêter main forte aux sinistrés du gigantesque incendie de cet été. Et puis on chaussera les crampons avec la reprise de la Ligue 1 et cette question, pourquoi y a-t-il aussi peu d'entraîneurs français ? On range le maillot de bain, on fait les valises et on plonge tout droit dans les embouteillages. On connaît tous les traditionnels bouchons de retour de vacances, on n'y coupera pas. Mais ce que vous ne connaissez pas, ce sont les coulisses, ces régulateurs de Vinci Autoroute qui essayent justement de limiter les bouchons. On vous y emmène, on est à Narbonne, au bord de l'autoroute A9, avec le micro ici héros d'Estelle Romer.
Dans la salle de contrôle, trois régulateurs surveillent 400 km d'autoroute 24 heures sur 24, reliés aux autorités et patrouilleurs.
Oui, je t'écoute.
C'est le cas d'Wilfried.
Là, je surveille l'évolution du bouchon dans les bretelles de Montpellier.
Derrière son écran, les retours des caméras, mais aussi des capteurs installés partout sur l'autoroute.
Intégrés dans la roue, quand les véhicules passent dessus, en fait, ça compte le nombre de véhicules qui passent et quand c'est noir. Comme ici, par exemple, vous voyez, c'est qu'on est vraiment sur du bouchon.
Toutes les 6 minutes, un résultat.
On est à 2300 véhicules. Donc au moins, si on peut avertir, au moins prévenir les usagers sur les panneaux.
Pour une 3 voies comme la 9, au-delà de 3600 voitures par heure, les équipes savent qu'il faut ralentir la vitesse, explique Maud Bonnet, l'assistante au PC Sécurité.
On va retarder la formation de cette congestion. On va passer à 110. On peut même descendre jusqu'à du 90. Hein.
Cet outil bien utile existe depuis des années, mais à ses limites.
Ça permet de repousser la congestion, mais pour autant, ça ne l'enlèvera pas, puisque je peux vous assurer que voilà, il y a du trafic très noir annoncé encore ce week-end, il y a du monde qui va revenir. Si les trafics est dense sur 3 voies, je sais que ça congestionnera.
Le suivi reste essentiel vu le trafic dans la région cet été, où certaines zones ont bien dépassé les 5000 voitures par heure.
Allez, bon courage à vous qui allez bouchonner et bon courage à vous aussi qui allez devoir faire le plein. C'est la mauvaise nouvelle de ces retours de vacances. Le litre d'essence est repassé au-dessus des 2 euros en moyenne. Le gasoil, lui, tourne autour des 2,20 €. Alors, chacun sa petite astuce pour économiser un petit peu. C'est un reportage de Louis Jouvezhomme. On est cette fois sur l'autoroute A16 en Picardie.
Pour Mélissa, originaire de l'Essonne, le secret, c'est de lever le pied.
Je conduis beaucoup moins vite qu'avant. Par exemple, sur les routes à 130, je suis plus à 110.
Entre 110 et 130 km/h, l'économie de carburant tourne autour des 25%. D'ailleurs, Mélissa voit l'impact sur ses factures.
Je valide fortement.
My name's Alistair Dolling.
Je m'appelle Alistair Dolling. En Angleterre aussi, l'essence coûte très cher, donc je conduis plus prudemment. J'évite de trop accélérer, j'essaye de ne pas piler. De cette manière, je réduis ma consommation. Je suis content quand mon nombre de litres s'en baisse.
Et même si le prix du pétrole redescend, il compte garder ses habitudes.
Ma famille préfère cette conduite plus souple et en plus, c'est meilleur pour l'environnement de consommer moins de carburant, donc c'est gagnant-gagnant.
Fait beaucoup plus attention.
Pendant un mois, Pierre-Emmanuel a sillonné le sud en voiture avec sa compagne. Tous deux ont adapté leur conduite.
On doit passer de 6,5 litres au 100 à 5 litres au 100.
Mais la facture reste salée.
On a dû faire, je sais plus, 300 euros de carburant chacun. C'était aberrant, du coup, là, on vient de commander une voiture électrique. Voilà, vraiment, le soir du retour du road trip, on a commandé notre voiture.
Ils ne sont pas les seuls. En France, les ventes de voitures électriques neuves ont augmenté de 55% depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.
Un reportage ici Picardie. Les orages sont venus compliquer les retours de vacances. Une trentaine de vols ont été annulés ce matin au départ ou en provenance de la Corse. Et puis, grosse galère pour les passagers d'un TGV Hendaye-Paris. Il est arrivé ce matin avec 11h30 de retard. Bonne nouvelle quand même, plus aucun département n'est en alerte orange aux orages ce midi.
Et le gouvernement fait marche arrière sur les franchises médicales.
C'est un soulagement pour de nombreux malades, mais il sera peut-être de courte durée. Les franchises médicales, ce sont ces petites sommes que nous, les patients, nous payons de notre poche quand on achète une boîte de médicaments, un reste à charge, 100 euros par an maximum. Le gouvernement voulait passer ce plafond à 200 euros. Ce ne sera donc pas le cas, François Ventéjou, mais une augmentation est quand même dans les tuyaux.
Le doublement annoncé n'a pas été compris et a pu apparaître comme brutal, reconnaît la ministre de la Santé qui fait machine arrière. Stéphanie Rist dit travailler à une réforme juste. Pour les malades, c'est une première victoire. Jocelyne Nouvégir préside l'Association française des sclérosés en plaques. Elle-même est atteinte de la maladie.
On salue l'abandon du doublement, évidemment, qui aurait fait payer jusqu'à 100 euros de plus par an aux patients les plus suivis, mais la hausse, elle est partirée. Le gouvernement, il évoque une revalorisation, mais rien n'est encore chiffré.
La ministre assure que l'augmentation sera nettement inférieure à celle initialement envisagée, sans pour autant donner de chiffres. Pour Denis Gravouille, en charge des questions de protection sociale à la CGT, il n'y a qu'une solution.
Il faut que le gouvernement renonce à toute franchise, à toute augmentation de ces franchises, même minime. C'est une mise à mal du principe de la Sécu que de ne pas rembourser les soins pour ceux qui en ont besoin. Et en particulier, évidemment, ça tombe sur souvent les plus malades et notamment, elle le reconnaît dans l'interview, les personnes en affection longue durée.
L'ALD qui concerne 13 à 14 millions de personnes, soit un Français sur 5.
Patrick Bruel n'est pas le bienvenu. Voilà la phrase qui se fait à nouveau entendre ces derniers jours. Patrick Bruel, visé par une nouvelle plainte pour tentative de viol. Ce sont désormais 32 plaintes qui pèsent sur le chanteur. Mais Patrick Bruel maintient sa tournée prévue cet automne. Il sera par exemple à Chartres le 2 octobre. Le maire de Chartres, Ladislas Vergne, demande l'annulation.
J'en appelle à la responsabilité de chacun. Idéalement, il faudrait que la production elle-même annule ce concert qui est très prématuré dans ce contexte. Si on n'arrive pas jusque-là, eh bien, il n'y a aucun problème. Je prends mes responsabilités en tant que maire de Chartres et je lève l'option de réservation de la salle et le concert ne se tiendra pas le 2 octobre. Pour les victimes, encore une fois, mais également pour que la justice puisse faire sereinement son travail. Il y a le temps de la justice, il y a le temps artistique. Et je ne pense pas qu'il faille mélanger les deux. Il y a une question, vous savez, tout simplement d'ordre public dans ma ville. Si le concert se tenait, eh bien, il y aurait probablement des grosses manifestations, des grosses perturbations que je devrais anticiper, gérer. Honnêtement, il ne faut pas que ce concert se tienne le 2 octobre à Chartres.
Et même son de cloche du côté de Laval, où Patrick Bruel doit se produire le 3 octobre. Le maire Florian Bercot appelle, je cite, à entendre la parole des femmes.
13h07 et on retourne maintenant en Gironde.
Demain, ça fera un mois, jour pour jour, que s'est déclenché en Gironde l'un des pires incendies que la France ait jamais connu. Nous sommes au Porges ce midi, là où près de 200 maisons ont été rayées de la carte. Elsa Marot, des militaires sont arrivés sur place pour aider les habitants.
Des restes de piscines calcinées, des tas de ferrailles difficilement identifiables. Une vingtaine de militaires s'activent pour mettre tous les encombrants dans l'ébène. Mathieu Plessis pensait pouvoir nettoyer les restes de sa maison tout seul.
J'aurais pu, mais ça aurait pris un mois.
L'aide des militaires est précieuse pour lui. Il a tout perdu lors de cet incendie.
Mon atelier derrière qui a bien brûlé aussi, qui était au fond. Là, la petite dépendance a entièrement brûlé aussi. Même sur le terrain, les bateaux, les voitures. Là, le feu a vraiment tout ravagé.
C'est le sergent-chef Kevin qui supervise les opérations.
On procède à des phases de reconnaissance pour éviter le suraccident avec les habitants et aussi de pouvoir faire un tri des déchets en fonction de la ferraille et tout ça. Donc, suivre un tri via l'équipe de Veolia qui est avec nous.
Pour l'instant, la sécurité civile est intervenue chez une vingtaine d'habitants du Porges depuis début août. Une succession de petits chantiers qui doivent être faits, explique Marc Zarouati, le préfet délégué à la sécurité et à la défense dans le sud-ouest.
Curter les fossés, débarrasser les carcasses, c'est ce qui permet en fait que très vite, ce qui reste de l'incendie et donc de sinistre mémoire pour tous ces gens disparaissent et qu'ils puissent tous se projeter très vite dans l'avenir.
La fin de la mission n'a pas encore été décidée. Le travail pour nettoyer et reconstruire la commune reste colossal.
Un reportage au Porges avec le micro sur place de Ici Gironde. La Ligue 1 de football reprend ses droits avec en ouverture ce soir un Marseille-Strasbourg au Vélodrome. Pour la deuxième fois depuis sa création, notre championnat ne comptera que 9 entraîneurs français. Hugo Duport, les entraîneurs, nos entraîneurs tricolores, ont de plus en plus de mal à séduire.
Oui, et ce phénomène serait lié notamment à l'augmentation de capitaux étrangers dans le championnat. Selon Philippe Montagnier, ex-entraîneur de la Real Sociedad ou encore de l'AS Saint-Etienne.
En France, ce sont les capitaux étrangers qui détiennent les clubs et qui naturellement se tournent vers des staffs et des joueurs étrangers. Peut-être par affinité, par habitude aussi de travail, mais quand on regarde de près... les entraîneurs français. Il y a un vrai savoir-faire, mais je dirais que nos actionnaires étrangers ont moins confiance.
Et pour gagner cette confiance, ils poussent les tacticiens français vers l'étranger.
On voit le succès de Régis Le Bris à Sunderland. On voit Pierre Sage arriver en Première Ligue. Donc nous, il ne faut pas qu'on s'obstine à être contre les actionnaires, parce que ceux qui sont propriétaires ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est à nous de peut-être rayonner un peu plus. Et peut-être qu'en s'expatriant, qu'en se faisant connaître à l'étranger, bah, les fonds étrangers sont plus attirés à mettre des entraîneurs français dans leur club français.
Une solution qui pourrait porter ses fruits en France, où le football s'internationalise, mais également en Angleterre, où 75% des clubs sont détenus par des investisseurs étrangers. Outre-Manche, sur 20 équipes en championnat, 3 seulement ont un manager anglais.
Et pour vous qui aimez le football, la Ligue 1, c'est bien sûr à vivre avec nous, avec votre radio ici. On est là pour cette nouvelle saison, pour vibrer, pour vous faire vivre les matchs de votre équipe préférée.
Merci Audrey Azo et rendez-vous à 14h pour continuer de nous informer. Allez, que diriez-vous de partir en week-end dans une ville de pêcheurs au bord de l'étang de Thau ? Direction 7 dans une minute sur votre radio ici.
Mais qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici ?
Peut-être parce qu'on parle de vos vies, parce qu'on est utile, parce qu'ici, on sourit.
Alors, même si vous n'êtes pas d'ici, même si vous êtes loin d'ici,
il n'y a pas mieux qu'ici. Vous êtes les bienvenus.
Actu locale, musique et bonne humeur, la nouvelle saison d'ici. Votre radio locale ?
Plus de vous.
Plus de nous.
Plus de vie. D'ici.
Et les gars, quand vous étiez petits, vous les appeliez comment, vos frères et sœurs ?
Pour ma sœur Justine, c'était Juju.
Moi, mon frère, vu qu'il était tout petit, je l'appelais Microbe.
Et toi ?
Moi, ma petite sœur, je l'appelais par téléphone, environ une fois par mois.
Depuis 70 ans, la Fondation Village d'Enfance Ensemble, anciennement SOS Village d'Enfants, agit pour que les fratries confiées à la protection de l'enfance grandissent ensemble.
Faites un don sur fondationvee.org pour que frères et sœurs partagent la même enfance.
Ici.
ICI.
Sur la route, au travail, à la maison.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Prenez de bonnes chaussures. Aujourd'hui, nous partons dans une ville du sud, dans l'Hérault, au bord de l'étang de Thau. 7, ville de pêcheurs, ville d'artistes, ville de bons vivants aussi, avec ses spécialités à base de poissons, bien sûr. Suivez le guide à travers les dédales des rues sétoises. Vous allez adorer vous y perdre.
C'est la Méditerranée, la ville de Georges Brassens. Et le décor de la série télé Demain nous appartient. Ok. Mais ce que je vous propose, moi, c'est de rencontrer l'âme de Sète. Et l'âme de Sète, ce sont ces pêcheurs. Les quartiers qu'ils ont investis, les garages qu'ils ont transformés en cabanons de pêche, et leur cuisine partagée entre amis. Et à la fin de la balade, vous saurez quel est le point commun entre les pêcheurs sétois et les espions de la DGSE. Je m'appelle Virginie Vives, je suis animatrice à ICI Hérault et j'adore Sète parce que quand je me suis installée dans l'Hérault il y a quelques années, c'est l'endroit où je me suis sentie à la maison. L'accent des Sétois, leur sourire, leur franc-parler, leur tradition et le charme de leur ville m'ont conquise à vie. Le Sétois est chauvin, mais vous allez voir qu'il a toutes les raisons de l'être. Bienvenue dans Partir. Sète, ville de pêcheurs. Notre point de départ est le plus ancien quartier de la ville, le quartier Haut. C'est ici que les pêcheurs italiens, arrivés par la mer en 1860, se sont installés. Les racines de Sète sont là, face au port.
C'est secret le quartier Haut, attention, hein. Ah, c'est quand même secret. Hein.
D'ici, on réalise la situation géographique exceptionnelle de la ville. Sète est prise en sandwich entre la mer Méditerranée, qui la borde d'un côté, et l'étang de Thau de l'autre. Voilà pourquoi l'écrivain Paul Valéry avait surnommé sa ville l'île singulière. Île singulière qu'on appelle aussi Venise du Languedoc à cause des canaux qui quadrillent le centre-ville. Attention, qui dit canaux dit pont. Il y en a 8 à 7 et franchement, il n'y a que les Sétois qui connaissent les horaires de levée et de descente. Alors mon premier conseil, ne venez surtout pas en voiture. En plus, la ville est embouteillée en permanence. Et troisième argument, les parkings. Les deux seuls gratuits sont plus éloignés du centre que la gare et souvent pris d'assaut. Le meilleur choix pour un week-end, c'est le train. La gare de Sète est à 10 minutes à pied du centre-ville et vous allez voir, on va tout faire en marchant. Les quartiers hauts, c'est une ambiance. Les maisons sont collées les unes aux autres. Les balcons fleuris, avec le linge qui sèche, rappellent l'Italie. De partout, on voit la mer. On comprend pourquoi les peintres ont installé leur atelier ici. Car oui, Sète est une ville de pêcheurs artistes. On apprend à pêcher un pinceau à la main. Sur ce mur, une énorme baleine bleue. Sur cette boîte aux lettres, une salamandre ou un hippocampe. Ne marchez pas trop vite, les détails sont partout. J'avance de quelques mètres vers la mer et nous voici place de l'Hospitalet. Au centre, la statue hyper pop de la Madone. Une femme nue, bien en chair, aux lèvres très gonflées et aux jambes croisées. Richard Di Rosa, qui l'a conçue, fait partie avec son frère Hervé et avec Robert Combas, des artistes qui ont fondé l'école sétoise dans les années 80. C'est un mouvement de peintres et de sculpteurs figuratifs. Ils mettent de la rondeur et de la couleur partout, y compris sur les murs de leur ville chérie. Des quartiers hauts, nous sommes juste en dessous du Mont Saint-Clair, le point le plus haut et époustouflant de Sète. 175 mètres. Clairement, si vous avez une photo à prendre, c'est d'ici. Vous verrez la Méditerranée, l'étang et même la chaîne des Pyrénées par temps clair. Les plus courageux essaient de le monter à vélo, mais mon fils et moi, on était déjà contents d'y arriver à pied. Ça vaut le coup de prendre le temps. Les maisons sont dingues. Et je ne suis pas la seule à le penser. Le Mont Saint-Clair est le prix au mètre carré le plus cher de l'Hérault. Et si vous avez de la chance, vous croiserez peut-être Benjamin Biolay ou Chrissy Hynde, la chanteuse des Pretenders. Mais chut. Avec les odeurs de poissons grillés, vous allez vite avoir faim. Je vous conseille de redescendre les quartiers hauts par le quartier de la Marine. Vous y mangerez le poisson juste pêché, assis le long du quai Général Durand. Car s'il pêche le poisson, les Sétois le cuisinent comme personne. Parmi leurs spécialités, il y a les sèches ou les moules farcies à la sétoise. Ce sont des moules farcies à la viande à base de tomates. Quand j'ai un peu de temps devant moi, je prends une table au Monte Cristo, chez Tony et Sylvie. Ils ont remporté le championnat du monde des moules farcies à la sétoise. Les prix sont hyper corrects, moins de 25 euros pour le premier menu et 9 euros pour le menu enfant. Pour digérer, je vous propose de marcher le long du quai. Je vous emmène côté étang, à 2 petits kilomètres. On va rencontrer des pêcheurs dans un endroit qui, à lui seul, mérite le week-end.
Vous écoutez Partir, une collection de podcasts ici pour voyager partout en France et découvrir les plus belles destinations. À retrouver sur l'application Radio France et sur ici.fr.
Ici, on est à la Pointe Courte, une pointe de terre bordée par l'étang de Thau d'un côté et le canal royal menant à la Méditerranée de l'autre. Un vrai village de pêcheurs. Le décor est fou. Des petites ruelles très étroites avec des cabanons de pêcheurs, des petites maisons jaunes, roses, bleues, vertes, des filets de pêche qui sèchent un peu partout, des barques amarrées au bout des pontons, des petites tables pour deux dressées au bord de l'eau. On se croirait dans une aquarelle des années 50. Ici, le silence règne. On entend juste l'eau, le vent, les mouettes et des voix qui sortent des maisons. Tant que j'y pense, vous vous demandez peut-être déjà quand venir passer un week-end. Ne vous posez pas trop de questions. Les pêcheurs sont là toute l'année et Sète change de lumière à chaque saison. Alors vous ne verrez jamais les mêmes choses. Ah oui, et si vous avez quand même pris la voiture, garez-la bien sur le parking à l'entrée du quartier. Mais je vous le redis, vous serez mieux à pied. La Pointe Courte est à 5 minutes à peine de la gare. Moi, j'adore ce quartier, parce que le temps s'est arrêté. Les pêcheurs se sont installés là sans aucun droit au 19e siècle, et ils sont toujours là. Ça montre bien le caractère des auto-surnommés pointus. C'est ce qui me touche le plus ici. Le caractère et l'authenticité des gens.
Ça, c'est la cabane de pêcheurs. Ça, c'est ma cabane de pêcheurs, ça.
Robert et sa famille sont pêcheurs depuis 4 générations. Il se lève à 4 heures chaque jour pour pêcher l'anguille avec ses collègues. Ensuite, ils débriefent ensemble autour d'un apéro dans un garage à la porte ouverte. Enfin, pas tout à fait un garage.
C'est que vous avez vu que c'était un garage.
Ça, c'était la cabane de combat transmilien. Mon grand-père et ma grand-mère, ils avaient plusieurs cabanes où ils stockaient le poisson, ils stockaient le filet. Donc, il m'en est revenu une.
C'était obligé de reprendre la pêche ?
Mais moi, c'est une passion, la pêche. C'est pas un métier. Nos familles ont construit ce quartier. Il n'y avait rien ici. C'est nos familles qui ont construit ce quartier par rapport aux besoins de l'activité de la pêche. C'était 100% pêcheurs. Voilà pourquoi il y a une telle communauté entre eux, entre toutes les familles, on se connaît tous, et voilà pourquoi ça continue.
Quand on est dans ce décor unique, avec ces braves gens comme les surnommés Brassens, on a envie de rester là, voir le soleil se coucher entre la mer et l'étang. Il n'y a pas d'hôtel à la Pointe Courte, le lieu est préservé. Mais on peut louer des logements pour une ou deux nuits via des professionnels ou des particuliers. Tout est autour de 100 euros la nuit. Mes préférés, la cabane du marin Jules, avec deux chambres. Et si vous êtes deux, il y a la cabane d'Isa, hyper cosy, avec la chambre sous les toits. Mais vérifiez bien qu'il y a la clim si vous venez l'été. Si on avance jusqu'au bout de la minuscule rue de la Traversée et qu'on passe côté canal, on tombe sur une surprise. Une fresque d'Agnès Varda. Je vous raconte l'histoire. En 1954, la cinéaste y a tourné son tout premier film appelé La Pointe Courte. C'est le premier film de la nouvelle vague pour certains. Elle avait découvert ce quartier alors qu'elle était enfant avec ses parents et elle y est toujours revenue, s'y sentant comme chez elle. Alors en 2019, à sa mort, les pointus ont insisté pour que son visage mutin soit pour toujours sur leur mur. Et oui, à 7, les pêcheurs aiment aussi le cinéma. Vous vous rappelez ? Je vous ai dit que les pêcheurs de Sète et les espions de la DGSE avaient un point commun. C'est le surnom.
Ouais, on a tous un surnom. C'est une caricature. Moi, je commençais à perdre les cheveux, ça me faisait une petite huppe de mal, là. Quand j'enlève la combinaison, que je plongeais pas lourd, ça me faisait une petite huppe. Donc, il m'appelait la poule d'eau. Il y en a qui s'appellent la banane, hein, parce qu'il avait teint une banane. On avait tellement l'habitude d'appeler, avec les anciens, tout ça, par nos surnoms, qu'on en a oublié les prénoms.
J'en profite pour vous dire que Sète est une ville à hauteur d'enfant. Alors, si vous en avez, prenez-les avec vous. Les gros bateaux du port, les barques de pêche, les grosses méduses dans les canaux ou la plage, ils vont tout aimer. Juste faites attention. À 7, on est toujours au bord de l'eau. Les anciens racontent qu'ils ont tous appris à nager dans le canal avec une corde autour de leur corps. Les parents les mettaient à l'eau très vite pour éviter l'accident.
Moi, on m'a jeté deux fois dans l'eau. Après, il y en a un ici, il s'appelle Moïse. Il est tombé le landau dans l'eau. Et il dit que le landau est tombé dans l'eau. Le landau, il flottait, il a appelé Moïse.
C'est vrai. Si, c'est vrai.
Pour passer du côté canal vers l'étang ou inversement, on a le choix entre plein de petites rues étroites aux noms bien pragmatiques. Ce que j'adore, c'est que les noms ont été inventés par les pointus eux-mêmes. On peut prendre la rue de la pétanque, la rue des boulistes ou la traversée des rameurs par exemple. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée pour vous. À 7, tout commence et tout finit à table, avec les produits de la pêche bien sûr. Je vous emmène à 20 minutes à pied, faire les courses dans le cœur gourmand de la ville, les Halles.
Ailleurs. Quand on est à 7, on ne peut pas piquer ailleurs.
Il y a tout, il y a le soleil, il y a la mer, il y a la montagne qui n'est pas loin. On a tout, nous, à côté.
En plein cœur du centre-ville, nous voilà dans un des marchés couverts les plus beaux d'Europe, dit excite le journal Le Monde.
C'est caillé ou pas, là ?
Les Halles de 7 sont recouvertes d'un filet de pêche géant avec des mailles en inox. À l'intérieur, une soixante-dizaine d'étaliers proposent du fromage, des fruits, des légumes, de la viande et du poisson, bien sûr. Il y a du thon, de l'anguille, du muge, du poulpe, de la dorade. Enfin, tout le nécessaire et le superflu pour se régaler. Et pas négligeable, ici, vous êtes en circuit hyper court. Alors vous payez les produits 20 à 30% moins cher qu'ailleurs dans 7. Je ne peux pas venir à 7 sans m'arrêter au Halles. Mange que tu fréquentes, disent les grands-mères sétoises. Autrement dit, ici, on aime les bons vivants. Et moi, je préfère venir le matin. Parce qu'il y a le traditionnel réveil sétois. On achète un croissant chez Rudy Serrato, c'est un ancien jouteur poids lourd devenu boulanger, et on le trempe dans le café chez Diego, juste à côté. Les champions des joutes nautiques sont des stars à 7. C'est le sport national ici. Des hommes sur un bateau, soit rouge, soit bleu, sont debout, avec une lance à la main, et ils essaient de se faire tomber. Du printemps au début de l'automne, les tournois transforment la ville en fête. Les gens sont tous en blanc, la musique est partout et les sourires aussi. Mais revenons dans nos Halles.
Le matin, c'est quand même bien ici, là. Nous, c'est galégier, voilà.
Tous les matins, on se revoit, on sent la même connerie. Une galère, c'est un plaisir, ça.
Voilà. Ah oui, bien sûr.
Plaisir du matin.
Ah nous, on se connaît depuis.
On se connaît de tout le temps.
J'avais commandé les cafés, hein. J'ai un Jacques, ouais. J'avais commandé les cafés.
Ça y est, écoute, Jacques-Claude, ça fait trois qu'on pourra, ça.
Hormis le fait qu'il soit assis chez Diego le matin, vous savez comment on reconnaît un Sétois ? À la couleur orange qu'il a aux commissures des lèvres. Ce sont des traces de tiel, autre spécialité incontournable de Sète. C'est une tourte garnie de poulpe à la sauce tomatée et épicée. C'est un régal. Elle existe dans plusieurs tailles et les Sétois la mangent en version individuelle en cas de petits creux. Alors le problème, il va vous falloir choisir chez qui vous allez l'acheter. Les trois maisons sont au Hall, Siani, Dasset et Giulietta. Les prix sont équivalents, tout est une question de goût. Le poulpe, pour franc-parler local, c'est l'emblème de la ville. Il a même une place à son nom. Mais ça, vous le découvrirez quand vous viendrez.
Avec plaisir. Merci Virginie Vives d'ici Héro pour cette découverte de Sète. Le temps d'un week-end. Si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les adresses qu'elle vous conseille, cet épisode de Partir est en réécoute sur ici.fr et sur l'appli Ici. Et lundi prochain, nous partirons dans une cité fortifiée en Touraine. Place à la musique maintenant. Eurythmics, Here Comes the Rain Again sur votre radio Ici.
I want to walk in.
Here Comes the Rain Again. Allez, restez avec nous, votre après-midi continue en musique et avec votre radio locale ici. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à lundi. Bon après-midi.
Ici Gironde, toute la journée.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Et merci d'avoir choisi votre radio locale ici Gironde pour passer votre après-midi. Un après-midi que l'on va partager entre bonnes infos, astuces dans le département, plaisir en Gironde. La musique, bien entendu, il y aura Gold, laissez-nous chanter dans un instant après la météo des plages d'Isabelle Wagner pour ici Gironde.
Ici Gironde, la météo des plages.
Nous allons vers l'Age Cap Ferré au Grand Croc sur la plage. Mer haute prévue pour midi 8, mer basse à 18h08. La couleur du drapeau est jaune, il y a des vagues d'1m20 à 1m50. La température de l'eau est de 23 à 24 degrés et la température de l'air 21 degrés. Rappelez-vous qu'aujourd'hui nous sommes en vigilance baïne, ces courants qui peuvent vous entraîner au large. Plus de précisions avec le major Guillaume Christ sur la plage de Lacanau.
Une baïne, c'est un trou d'eau qui se forme dans le sable de la côte avec l'action du courant du vent et de la houle. Lorsque, par le biais des vases communicants, l'eau déferle sur les bancs de sable, alors les bancs de sable, c'est là où il y a les vagues, et finit par remplir ces trous d'eau, donc la baïne, et lorsqu'il déborde, sous l'effet des vagues et de la marée, c'est à ce moment-là qu'un fort courant de sortie de baïne, ou ce qu'on appelle communément un courant d'arrachement, vous entraîne très rapidement là. Il ne faut surtout pas nager à contre-courant. Faites des gestes, et là, on viendra vous chercher et vous aider.
Pour une baignade en toute sécurité.
Retrouvez aussi notre carte interactive des plages surveillées sur l'application mobile gratuite ICI.
ICI Gironde.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Nous sommes avocats.
Sur Ici Gironde, laissez-nous chanter le groupe Gold. Dans quelques minutes, Billy Paul, Me and Mrs. Jones. Puis nous irons dans le Médoc, rejoindre Godefroy Cuypers. Si vous avez eu la gentillesse de passer l'été avec nous, vous le savez, tout cet été, Godefroy est allé se promener dans le Médoc avec beaucoup de plaisir. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la dernière. Alors du coup, il a à ses côtés un invité tout à fait spécial. Restez bien avec nous, cela arrive dans un instant. Après, cette nouveauté, notamment d'une voix que vous connaissez, que vous aimez, celle de Céline Dion, pour Bonjour, pardon, merci, sur Ici Gironde.
Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, nous ne sommes que des hommes, forgés par nos erreurs, que seul amour console. Bonjour, pardon et mille merci à l'heure, pour toutes les fois où elle m'a couverte d'or. Bonjour, pardon, merci, il manque le verre à ce pot. Cette marque de rouge à lèvres, il y a ces moments donnés que le temps nous enlève. On n'en aura jamais assez, on en manquera toujours. On n'a jamais trop donné, ni trop reçu d'amour. Bonjour, pardon, et oui, je t'aime encore. De tous les sentiments, ce dernier est le plus fort. Tu brilles de mille paillettes, comme un soldat monte la garde face aux démons dans sa tête. Et si parfois toi aussi tu as peur de ne pas assez briller de l'intérieur. Holding hands, making all kinds.
Mrs. Jones, c'est Billy Paul, Godfrey Keepers, DC Jones pourrait chanter, pas Me and Mrs. Jones, mais moi et le Médoc, ou le Médoc et moi. Dernière visite de l'été dans le Médoc, Godfrey Keepers, DC Jones.
Et l'étape du jour marque, malheureusement, toute bonne chose a une fin, la fin d'un été dans le Médoc. Et c'est vrai que cet été, on a vécu plein d'expériences, on a fait du vélo sur nos pistes cyclables, on a fait du canoë, on a ramé dans l'océan, on a découvert des bunkers, on a aussi découvert des nouveaux châteaux, on s'est régalé avec les huîtres du Médoc et tant d'autres. Le Médoc, ce territoire vaste, multiple, varié. Et pour terminer, on s'est dit que ce serait pas mal d'avoir un chouette invité qui, justement, connaît le Médoc comme sa poche. Bonjour Michel Sautin.
Et bonjour.
Alors, vous faites notamment un partie de la Société historique et archéologique du Médoc. Vous l'arpentez dans tous les sens. Et c'est vrai que pour finir, ce qu'on peut dire quand même, c'est que le Médoc, c'est un territoire déjà multiple. Entre d'un côté cette façade sur l'océan qui est magnifique, ces forêts qui sont denses, ces marais, le plus grand estuaire d'Europe. On est vraiment un pays de grands espaces.
Alors c'est un pays de cocagne surtout. On trouve de tout. C'est vraiment extrêmement riche. Autrefois, on a ramassé des pibales, des vassaux, il y avait les chasses aux tourterelles et tout autre gibier. Enfin, c'était un art de vivre. Ce fut des périodes de gloire.
Et Michel, ne vous risquez pas à dévoiler le coin à cèpe de votre ami préféré. Ou alors là, vous prenez des très grands risques.
Un placette ne se donne jamais.
Donc l'été aussi, Michel, ça a été l'occasion de replonger un petit peu dans l'histoire de la presse. De voir à quel point elle est riche, des Romains jusqu'à nos jours, en passant par ces bunkers qu'on a visités sur la batterie des Arros. Et c'est une histoire qui n'arrête pas de s'écrire.
Ah, tout à fait, parce que c'est vrai que le Médoc est extrêmement riche, donc avec l'exploitation du sel. Donc, on a trouvé dans des paniers qui datent de 4e millénaire, qui est visible au musée d'Aquitaine, qui se trouvait sur Soulac. C'est pas connu. Mais c'est vraiment étonnant, quoi.
Donc plein de musées à visiter. Est-ce que vous serez pas en train de nous dire qu'on n'a pas assez d'un été pour raconter tout le Médoc ?
Oh ben si, il faut les raconter. C'est pas un été, c'est toute une vie, quoi. C'est toute une vie. Non, c'est vraiment extraordinaire. C'est une richesse extraordinaire, oui.
Toutes les occasions sont bonnes pour se rendre dans le Médoc. Michel, vous, ça c'est quelque chose que vous maîtrisez bien. On vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Et puis on vous souhaite une très belle arrière-saison.
Ici Gironde.
Gironde.
Tu m'as trop souvent dit que t'aimais mes yeux, que t'aimais nos nuits. Maintenant j'ai l'air d'une folle mascara d'école. Tu m'y as fait croire, mais t'es qu'un.
Ici Jérôme Louane avec Chien à suivre pour vous dans un instant. Phil Collins, Another Day in Paradise. Et puis il sera à 14h. Toute l'actualité de ce vendredi 21 août vous sera présentée par Aude Razo pour Ici Gironde.
Ici Gironde, le week-end.
Pour bien commencer votre journée, Ici Matin.
Sortez vos épées.
Anaïs Anton-Royer.
Les médiévales de l'Espar-Médoc commencent ce samedi. Et pour commencer ce week-end, on va profiter avec le président des troubadours de la Tour. Parade, mini-ferme, combat, ripaille et surtout costume tout droit sorti d'un film. Vous allez vivre ces médiévales de l'honneur avec un petit peu d'avance à 8h40 sur votre radio Ici Gironde.
Ici Matin, week-end.
Demain, dès 7h.
Sur votre radio Ici Gironde.
blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying.
Nous sommes le vendredi 21 août et il est 14h.